7h42 en temps universel, RFI Matin, la suite, c'est le journal des sports. Et le retour d'Antoine Grenier. Antoine, en football, Maroc-Afrique du Sud, ce sera l'affiche de la finale de la CAN U20.
Les Sud-Africains qualifiés en dominant le Nigeria 1-0. But de Tylon Smith, le défenseur de Stellenbosch, juste après l'heure de jeu. Première finale pour l'Afrique du Sud dans une CAN U20 depuis 1997. Ça ne rajeunit personne. À l'époque, les Sud-Africains s'étaient inclinés face au Maroc. Ils auront l'occasion de prendre leur revanche puisque ce sont les Marocains qui se sont qualifiés dans l'autre demi-finale en dominant l'Égypte 1-0. But signé Younes El Abdelhaoui, l'attaquant du Celta Vigo.
En athlétisme, destination le Qatar pour la Ligue de Diamants.
Troisième des 15 meetings de la saison ce vendredi. Après deux premières étapes en Chine, les athlètes font donc escale à Doha avec en piste plusieurs têtes d'affiche. Le champion olympique qatarien Moutaz Barchim au saut en hauteur, la jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce sur 100 mètres ou encore l'Etzile Tebogo sur 200. Champion olympique de la distance l'été dernier à Paris, le Botswanais a un statut à défendre, même s'il espère aussi briller sur 100 mètres cette année.
Pour l'instant, c'est le plan de passer de l'un à l'autre, 100 mètres et 200 mètres, de continuer à faire les deux. Cette année, on a plus de temps pour s'y préparer que l'an passé avec les Jeux Olympiques. Pour les JO, ça n'était pas facile. J'ai perdu ma maman juste avant. J'ai dû adapter mon entraînement et le 100 mètres n'était pas la priorité. On a plus travaillé le 200. Mais là, maintenant, c'est différent. On a plus de temps pour bien se préparer pour les deux. L'idée, c'est de faire comme en 2023 pour Budapest.
Letzile Tebogo, qui fait allusion aux mondiaux de Budapest en 2023 où il avait terminé deuxième du 100 mètres et troisième du 200.
On termine avec le cyclisme, Antoine, et le coup d'envoi ce vendredi du 30e tour du Togo.
Premier coup de pédale attendu entre Kabou et Mango sur 124 km. Au départ, 58 coureurs venus de 9 nations africaines. Caravane qui a quitté Lomé mercredi pour relier Kabou, accompagné par notre correspondant Gerson Dovour.
Moteur en tête de cortège, sifflet, ronronnement de moteur, c'est dans une certaine effervescence que la caravane de ce 30e tour cycliste du Togo a quitté Lomé pour rallier Kabou dans le nord où sera donné le coup d'envoi ce vendredi de la première étape. En file indienne, une vingtaine de véhicules chargés de matériel de course sur un tour porteur de beaucoup d'ambition. Baïsien Diabig, président de la Fédération Togolaise de Cyclisme.
Nous voulons inscrire notre prochain tour, l'édition de 2026, sur le calendrier UCI. Nous voulons également instituer la première édition du Tour cycliste féminin du Togo l'année prochaine. Porter le cyclisme togolais sur le toit africain dans les deux prochaines années à venir.
Pour ce faire, la FTC se donne les moyens, mais pas toute seule.
Nous sommes donnés les moyens d'acquérir du matériel de qualité, des vélos professionnels pour pouvoir nourrir cette ambition. Nous avons pas mal d'institutions financières, de sociétés privées qui nous soutiennent.
Le Togo aligne deux équipes et pourra compter sur des coureurs comme Dedema Panawe, champion du Togo, son dauphin Nouleleng Tchalim et Justin Kokou Kako, autre leader. Avec ses espoirs, le Togo pourrait espérer tirer son épingle du jeu. Gerson de Volomé, RFI.
Le Tour du Togo 2025 qui s'achèvera le 24 mai.
Et merci Antoine Grenier.
RFI à Garoua, 104.8 FM.
C'est l'une des grandes villes du Cameroun, capitale du Nord, à près de 1000 km de la capitale Yaoundé. Afrique Économie nous emmène à Garoua, où près de 2 millions de Camerounais vivent du coton, selon le ministère de l'Agriculture. Mais cette activité ne peut pas répondre aux besoins de tous. Le chômage est un défi. Certains se tournent donc vers l'entrepreneuriat. C'est ce qu'essaient de promouvoir les autorités camerounaises, à travers notamment une politique d'import-substitution, produire localement plutôt que d'importer. Un pari réalisé notamment par la petite coopérative de Madame Kaltoumi. Elle s'est lancée dans la production de yaourt et Charlotte Cosset nous emmène la rencontrer.
Moi, c'est Madame Kaltoumi, épouse Boubacari, transformatrice du lait. On est ici dans la salle de production. Là, on est en train de fabriquer le yaourt.
À la manœuvre, Raphaël, Charlotte sur la tête et gants en latex aux mains, il remue le lait dans un bac en plastique.
Je suis en train de transformer le lait en yaourt. Pendant 14 ans, on est en train de mettre les laits seulement dans les bouteilles, on charge comme ça.
À l'initiative de cette coopérative, Madame Kaltoumi, une trentenaire d'origine peul.
C'est déjà notre culture de le lait. Déjà à l'âge petit, je connais quand même déjà comment faire de façon familiale. Donc je me suis dit pourquoi alors ne pas faire peut-être une business qui peut nous rapporter. C'est comme ça que ça a commencé.
Elle débute chez elle, produit à petite échelle, puis s'associe avec d'autres femmes en groupe d'initiatives communes, le GIC.
Après quelques années, on s'est constitué un GIC.
Parce que ça marchait bien ?
Effectivement, oui, parce que ça marche bien, puisque à chaque fois, on ne fait qu'augmenter. On a passé au saucet de 100 francs. Après, c'est dans des bouteilles comme ça qu'on fait. On livre partout dans le Garoua et jusqu'à Maroua.
Et de sens de l'entrepreneuriat, elle n'en manque pas.
Je me suis formée sur net, sur la fabrication du yaourt. Et après, il y a des formations que l'État a faites, que j'ai participé avec d'autres projets et programmes. En tout cas, j'ai fait beaucoup de formations sur la transformation, sur l'entrepreneuriat. Donc, à chaque fois, il y a un programme qui veut faire la formation, je participe.
Très vite, la demande la dépasse. Dans le cadre de la stratégie de développement du secteur rural du Cameroun, un programme soutenu par ACEFA de l'Agence française de développement, la productrice reçoit une aide financière de 6 millions de francs CFA, ce qui lui permet d'investir dans des frigos et d'avoir des locaux dédiés à la production. La façade du petit bâtiment affiche fièrement Beauté Kossam, le bienfait du lait. Aujourd'hui, sa petite équipe de 10 personnes produit 500 litres de yaourt par jour qui sont livrés dans les restaurants, les supermarchés ou des petites boutiques. Elle pense déjà à l'étape suivante, investir dans des machines.
On est en train de penser à trouver certaines machines qui peuvent faciliter et qui vont nous permettre d'augmenter la quantité. Puisqu'il y a quand même la demande, puisqu'actuellement, avec le 500 litres, on n'arrive pas à satisfaire le marché. Puisque dès qu'on produit, ça finit, ça ne reste pas.
Un développement qui ne va cependant pas de soi. Malgré des démarches auprès de plusieurs organismes de prêt, la petite coopérative ne parvient pas pour l'instant à obtenir les financements nécessaires. Charlotte Cossé, de retour de Garoua, RFI.
Afrique Économie, reportage à retrouver sur RFI.fr et notre application Pure Radio.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
Et dans notre reportage Afrique ce matin, une institution qui connaît une nouvelle vie après des années de difficultés. Fermée à la fin des années 80, réinaugurée en 2018, la Bibliothèque Nationale de Guinée reste aujourd'hui méconnue. Malgré la richesse de ses fonds, des archives qui constituent un véritable trésor, notamment pour retracer la période coloniale ou la première république de Sékou Touré, entre les rayonnages de cette Bibliothèque Nationale de Guinée, reportage signé Tanguy Billan.
Les escaliers de la bibliothèque montée, Sira Cissé, responsable de la documentation, ouvre la porte d'une grande pièce.
Nous sommes dans la deuxième salle de lecture de la bibliothèque. Ici sont disposés les anciens journaux de l'indépendance.
Parmi les journaux rangés sur les étagères, ceux de la Première République, Oroya, le grand quotidien national du parti État, mais aussi des titres moins connus comme la Guinée-Guinée qui signifie femme guinéenne, Guinée voulant dire femme en langue soussou.
La Guinée-Guinée, c'est le journal féminin de l'époque qui parlait des femmes, des premières dames, des femmes de la Guinée et d'ailleurs.
Parmi les archives de presse figurent également des titres plus anciens, datant des années 50, comme Le Réveil, le journal du Rassemblement démocratique africain, le RDA, le grand parti de la décolonisation. Daouda Tamsirnian, le directeur de la BNG, feuillette un numéro contenant un article de Sékou Touré, alors chef de la branche guinéenne du RDA. C'est l'ancienneté de la bibliothèque qui fait la qualité de ses fonds, explique le directeur.
La Bibliothèque nationale est la plus ancienne institution de recherche et de documentation en République de Guinée. Elle existe depuis les années 1944. Elle a été créée donc sous la colonisation et c'était l'antenne de l'IFAN, l'Institut français d'Afrique noire, devenu aujourd'hui Institut fondamental d'Afrique noire, basé à l'Université de Dakar.
Après une série de réformes, elle est devenue l'actuelle BNG. Daouda Tamsirnian veut en valoriser les fonds anciens.
À notre avis, aujourd'hui, les bibliothèques évoluent vers les médiathèques. Donc, de plus en plus de dématérialisation se font et de numérisation. Notre grand projet aujourd'hui, c'est de numériser les documents de la Bibliothèque nationale.
Parmi les documents à numériser, l'important fonds de mémoire de fin d'études. Il porte sur des sujets aussi divers que l'exploitation minière ou la grammaire de la langue maninka. Sira Cissé tire un volume d'une étagère.
Vous avez là un mémoire qui a pour thème Amilcar Cabral, théoricien et praticien de lutte de libération nationale.
Ce mémoire a été soutenu en 1978, 5 ans après l'assassinat en plein Conakry du héros de l'indépendance de la Guinée-Bissau. Un autre grand combat mené par le directeur est de faire respecter le dépôt légal par les maisons d'édition guinéennes pour valoriser aussi le patrimoine contemporain. Tanguy Billan, Conakry, RFI.
Et à Conakry, comme en temps universel, il est bientôt 8h. Chaque matin à 7h06 jusqu'au week-end prochain au Paracan, suivre la 78e édition du plus prestigieux des festivals de cinéma. RFI vous fait découvrir les films en compétition pour la célèbre Palme d'Or, mais désormais le festival s'ouvre aussi chaque année aux œuvres créées avec la réalité virtuelle. Un autre regard sur l'image et le son, de nouveaux moyens pour les diffuser. Le festival a donc créé une nouvelle compétition, la section immersive. Guillaume Thibault est allé découvrir ses œuvres et ceux qui les réalisent.
Bonjour, je m'appelle Juniper.
Pour entrer et se laisser emporter au sein de la maison de poupées, un casque de réalité virtuelle est nécessaire. Vision et son en trois dimensions, le spectateur se retrouve alors dans la chambre d'une enfant. Il essaiera de l'aider à résoudre ses problèmes. Pour Charlotte Bruno, la co-réalisatrice de cette œuvre présentée en compétition officielle, l'intérêt de la réalité virtuelle est de pousser le spectateur à faire des choix.
Pouvoir engager l'utilisateur à travers des gestes où il accompagne, c'est autant de petites décisions comme celles qu'on prend dans la vie et qui amènent au fait à former le monde dans lequel on choisit d'être.
La compétition officielle de la section immersive a été créée en 2024. La réalité virtuelle reste donc un support nouveau, un terrain de découverte immense, estime Élie Levasseur, le responsable de cette section au Festival de Cannes.
En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que ces nouvelles technologies sont utilisées par des artistes pour créer des nouvelles histoires, des histoires qui ne pourraient pas être racontées au cinéma.
Le réalisateur français Luc Jacquet, président du jury de la compétition immersive, devra, avec les quatre membres qui l'accompagnent, choisir entre 9 créations, notamment Taxi, avec un A et un I majuscule, référence bien évidemment à l'intelligence artificielle.
Salut, où est-ce que tu vas ?
Je voudrais aller à Dakar.
D'accord, on y va ?
Le spectateur est invité à monter dans une ancienne voiture française, une Renault 4. Son chauffeur est donc une IA.
Laisse-moi te raconter un mec une fois qui m'a parlé d'un séjour à Dakar. Il disait qu'il s'était perdu dans un quartier chaud.
Emma Hamilton est la productrice de Taxi. L'idée fondamentale de son projet, créer une banque d'histoires avec tous les passagers pour ensuite les partager.
Comme ça, elle peut construire une banque de mémoire des passagers qui sont venus dans son taxi. Donc en fait, c'est un espace de partage. Voilà.
L'IA de Taxi, volontairement déjantée, pousse aussi le spectateur à s'interroger. Une expérience nouvelle, hors du commun, pour Shimon.
On ressent par moments pas vraiment le côté IA qui est des fois très déshumanisé. Par moments, j'avais l'impression de parler avec vraiment un être humain. Et c'était ça qui, des fois, pouvait être un peu déstabilisant.
Le jury remettra le prix de la meilleure œuvre immersive lors de la cérémonie de clôture de cette compétition le 22 mai prochain. Guillaume Thibault, Cannes, RFI.
Et à Cannes comme à Paris, il est bientôt 10h. Chaque jour, RFI Matin se termine en musique. Musical aujourd'hui, c'est le multi-instrumentiste de Melbourne, Don Glory, et son troisième album intitulé Paper Can't Rap Fire, un disque où il s'éloigne du pur jazz pour aller explorer d'autres univers musicaux. Lisa Giroldini l'a écouté pour nous.
Don Glory poursuit son ascension créative vers une musique qui navigue toujours plus entre les genres. On trouve dans Paper Can't Rap Fire des chansons plus soul, R&B et funk que ses précédents albums aux racines très jazz, même si on ne s'éloigne jamais totalement du genre. Le niveau musical de ce disque impressionne, avec de superbes improvisations de vent, des harmonies vocales qui évoluent avec fluidité et d'incessants changements de tempo ou de tonalité, faisant presque de chaque titre un medley.
Take a seat, come on man, just shut up.
La traduction du titre de l'album, un vieux proverbe chinois, signifie « on ne peut nier la vérité », une idée comme un fil rouge déroulé dans toutes les paroles. Les textes parlent de la recherche de la vérité, des masques sociaux que l'on porte au quotidien ou encore de l'impression de clarté après introspection. Le morceau « Brown Eyes », lui, évoque l'expérience des minorités et leur pouvoir dès qu'elles se rassemblent. On her arms, we took her for a prayer. Yes. This is it, I'm living in. Yeah, yeah. Give me a yard and I'll show you a stick in the mud. Filling my place, need to find. Don Glory s'est entouré de sa famille et de nombreux amis issus du carrefour créatif qu'incarne Melbourne, mais aussi de l'extraordinaire trompettiste Audrey Pound et du producteur Alcides Neto qui apporte une touche de Brésil à l'album. Paper Contrap Fire est un disque très réussi entre la finesse d'un jeu parfaitement maîtrisé et la chaleur de la soul, le tout porté par un désir puissant de nouveauté dans le jazz.
Notre choix musical avec Lisa Giroldini. La musique sur RFI, c'est aussi un concert exclusif ce soir sur notre antenne, celui de Tiakola, soirée spéciale avec Juliette Fievet à partir de 20h10, temps universel. Et bonjour Juan Gomez.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
RFI Matin se termine, au programme d'appel sur l'actualité aujourd'hui.
Dans 10 minutes comme tous les matins, vos questions sur l'actualité et les réponses évidemment de la rédaction. Ce matin, on nous interpelle sur la dissolution des partis politiques au Mali, des questions également sur l'exploitation pétrolière en République démocratique du Congo ou encore sur la baisse de la production du coton au Cameroun alors que le pays est présenté comme étant l'un des meilleurs rendements du continent. Julien, bonne journée.
À demain.
À demain.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Dans notre émission Questions de femmes, prendre soin de sa peau. Acné, eczéma, psoriasis, une dermatologue répond à toutes vos questions.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Religion du monde. Véronique Guémard.
Qu'est-ce que la mode peut avoir en commun avec la religion ? La mode comme phénomène globalisant qui concerne l'individu et la collectivité avec ses dogmes et ses rites. Nous en parlons avec le théologien dominicain Alberto Fabio Ambrosio, auteur de « Mode et religion, habiller le sacré, sacraliser le look ».
Religion du monde, avec Véronique Guémard.
Dimanche, à partir de 10h10 TU.
RFI.
BPM.
Bonne pulsation du monde, avec Hortense Vol.
Cette semaine, dans ma Selecta, il y a des artistes qui, de la Palestine au Mozambique, chantent la résilience et l'affirmation de soi. Et puis dans l'histoire d'un live, l'un des derniers génies de l'industrie musicale, feu The Artist Prince.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol. Tous les dimanches à 14h10 TU sur RFI.
BPM.